Respirez à fond. Oxygénez-vous, profitez-en.
Elle m'angoisse, cette forêt.
Vous êtes chiants, les gars.
C'est pas nous qui sommes chiants. C'est la nature qui est chiante. Je m'emmerde, moi. J'en ai marre de la verdure. Tout est vert.
CO2, mon amour.
Je respire. L'air est pur, tout est calme.
Est-ce que tu trouves ça calme, toi?
Ah oui.
Ah, mais merde. Avec tous ces oiseaux à la con, ils trouvent ça calme.
Denis chez Sou.
Tu préfères les bagnoles?
Peut-être! Ils commencent à me taper sur le système, ces oiseaux.
Hein, c'est beau, c'est bien. Oui, c'est CO2 Mon Amour, votre magazine de nature et d'environnement. Parce qu'on n'attend pas le changement, mais que nous sommes le changement. Direction donc la Réunion aujourd'hui, avec Juliette Delpero et Gilles Gaillard à la technique, et assisté de Claire Destacan. Sans oublier cette semaine Albert Houck du Maine-et-Loire. C'est Xavier Pessugia qui réalise l'émission. Une émission qui débute par une petite humeur qui va se compléter d'ailleurs par une actualité, parce que vous vous souvenez, l'année dernière, à ce même micro, je vous parlais des serres d'Auteuil, donc magnifiques serres tropicales en fonte de fer, réalisées à la fin du 19e siècle par l'architecte Jean-Camille Formiget, devenues une sorte de paradis terrestre pour les botanistes et les promeneurs de l'ouest parisien. Bon, des serres qui présentent un seul défaut, c'était celui d'avoir pour voisin un certain Roland Garros, toujours friand 2 mètres carrés pour augmenter sa surface commerciale, dans le but de ne pas se trouver trop à l'étroit pour jouer à la baballe durant 2 semaines dans l'année. Alors aujourd'hui, en fait, on migre du nord-ouest de la capitale au sud-ouest, non loin de Versailles. La baballe est d'une taille supérieure, mais la situation est similaire. Ah oui, là on n'est plus avec des serres de l'époque proustienne, mais devant un château Louis XIII, celui de Thiberval, Grignon, et les 1100 hectares qui lui sont associés, le tout étant propriété de l'État. Voici donc une jolie superficie que celle de ce château, encore occupée par l'école Agro-ParisTech, garante de la vocation agronomique du site, une vocation qui remonte tout de même à Charles X. Et outre une surface agricole utile de 700 hectares, le domaine comprend une carrière renommée qui s'appelle la Falunière, un arboretum, des laboratoires, une ferme expérimentale. Bref, une richesse patrimoniale hors du commun, doublée d'une diversité des sols et des sous-sols et de la présence d'espèces endémiques qui valent au site son classement en zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique. Bon, pour faire court, c'est pas vraiment de l'ordinaire, donc là-bas. Mais comme en 2019, l'Agro-ParisTech est censé déménager sur le plateau de Saclay, ah, mais que voilà une belle opportunité pour un État désargenté qui n'a de cesse de vouloir vendre ses bijoux de famille et qui pourrait bien les acheter, ses bijoux de famille, hein, hormis des gens qui ne savent pas quoi du tout faire de leurs millions. Eh ben, au hasard, les dirigeants du Qatar Saint-Germain, oui, notre opium club de foot de la capitale, eh bien, ces dirigeants sont prêts à verser la bagatelle de 300 millions d'euros pour aménager à Grignon le nouveau centre d'entraînement du PSG, et jouer, au Châtelain entre 2 matchs de Ligue 1. Car rien de tel qu'une vue plongeante sur un monument historique pour faire mouiller le maillot d'une douzaine de milliardaires en short. Il faut bien ça quand même quand on veut présenter un certain standing. Bah oui, c'est comme ça. Il ne s'agirait tout de même pas de passer pour des pouilleux alors que l'on affronte régulièrement des clubs européens les plus fortunés. Ah mais... Sauf que cette perspective rend grognon nombre d'habitants de Grignon pour lesquels le projet apparaît franchement hors-jeu. Ah, il faut avouer que la création sur place de 18 terrains de foot et d'un parking de 1000 places modifierait très légèrement l'aspect du site. En gros, le PSG s'accaparerait les surfaces sans qu'il y ait réparation. De plus en plus de terres agricoles, on le sait, sont rongées par l'urbanisation. Donc on vous le dit régulièrement, hein, c'est l'équivalent à peu près d'un département français tous les 6-7 ans. Est-il bien nécessaire que les clubs de foot se mettent de la partie pour amplifier le phénomène? Par le biais d'une pétition, déjà 14 000 signataires ont répondu non à cette question et demandent que ce bien commun, qui est le domaine de Grignon, ne soit pas cédé à des intérêts privés. Alors finalement, à bien y réfléchir, à Auteuil ou à Grignon, eh ben le sport de haut niveau agit toujours de la même manière. Dès qu'il y a un monument du patrimoine architectural à dénaturer, il répond « Présent !» Le sport riche à millions s'inspirerait-il des bétonneurs de haute volée qui, eux, ne peuvent pas passer devant une zone humide sans vouloir y bâtir un aéroport? Allez savoir. Et en ligne, pour prolonger donc cette actualité, Frédéric Delamea, bonjour à vous.
Bonjour Denis.
Alors vous êtes un des responsables du collectif pour l'avenir de Grignon, 150 personnes, collectif, je le dis, qui va passer en association parce que ça va vous donner davantage de poids. Où en sommes-nous aujourd'hui et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est officiel? Qu'est-ce qui ne l'est pas dans cette affaire?
Eh bien aujourd'hui, Denis, silence radio. Silence radio, officiellement rien. Depuis plusieurs semaines, il n'y a plus aucune information communiquée par les autorités. Quand on va sur le site de France Domaine, sous le ministère de l'économie, le bien de Grignon n'apparaît pas. Vous savez, sur le site de France Domaine, on a tous les biens de l'État en vente qui apparaissent avec le dossier détaillé. Mmh. Pour Grignon, rien du tout. Quand on contacte le service des domaines de Versailles, qui est censé nous fournir le dossier, on a droit à une réponse savoureuse, je vous la cite dans le texte. Des expressions d'intérêt ont été reçues, mais à ce stade, le dossier n'est pas encore disponible car rien n'est lancé.
C'est très joli.
En réalité, probablement, tout ça est en train de se traiter en catimini, dans l'obscurité la plus complète, dans l'opacité la plus complète. On dit que le dossier serait sur le bureau de Manuel Valls. On n'en sait pas davantage, sauf que les Qataris sont venus sur place, sauf qu'ils ont visité les lieux, et sauf que le dernier bulletin municipal de Tiberval-Grignon, dont le maire se réjouirait de l'arrivée des Qataris et du PSG, eh bien sur 4 pages en multicolore, annonce de façon assez détaillée l'emplacement probable des terrains de football, les accès probables au centre d'entraînement, etc., etc. Donc en réalité, tout ça est en train de se faire, mais de façon absolument obscure.
Alors Frédéric Delaméadou, effectivement ce collectif qui devient une association, on a mis sur le site de CO2 Mon Amour à la fois le site du collectif, la pétition, si vous souhaitez donc la remplir. Je veux dire que ça dépasse aussi le problème des riverains, cette affaire.
Alors, bien évidemment. Alors pour les riverains, effectivement, avoir plutôt que le château Louis XIII, son parc magnifique, ce bijou, parce que c'est un bijou, le site de Grignon.
Oui, c'est exact.
C'est absolument magnifique. J'espère que vous mettrez des photos sur le site.
C'est fait.
C'est un endroit paradisiaque. Bon, c'est vrai que c'est quand même plus joli, plus agréable à l'œil que les terrains de football, et puis c'est moins bruyant. Mais il n'y a pas que les riverains. C'est toute la communauté scientifique qui se mobilise, toute l'agronomie française qui se mobilise, toute la géologie française. Le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel d'Île-de-France a voté à l'unanimité une motion pour rappeler la défense du patrimoine géologique qui est unique, dont il dit qu'il présente un immense potentiel scientifique de rang international. Donc c'est toute la communauté scientifique qui se mobilise.
Alors, donc, juste un petit dernier point. Donc, vous avez déjà effectué une marche, c'était au mois de janvier. Absolument. La prochaine marche a lieu quand, s'il vous plaît?
La prochaine marche a lieu le 12 mars à 10h.
Bien, donc c'est un samedi 12 mars à 10h, et ça va aller de Grignon jusqu'à la ferme expérimentale, hein, c'est ça?
Oui, ou dans l'autre sens.
Ou dans l'autre sens, vous faites bien ce que vous voulez. D'accord, c'est parfait. En tout cas, merci à vous. C'est vrai qu'on en entend parler sans vraiment en entendre parler de cette affaire-là, donc c'était bien peut-être de mettre un petit coup d'éclairage dessus. Donc les éléments sur le site de CO2 Mon Amour, on vous remercie.
Petit mot peut-être pour dire, si vous permettez, que au mois de janvier dernier, celle qui était la présidente du groupe Europe Écologie des Verts au Conseil régional,
Emmanuel Cossé,
avait adressé une lettre à Stéphane Le Foll, ministre vendeur, puisque ministre de l'Agriculture, et elle avait soutenu totalement le projet du collectif qui est de créer à Grignon, plutôt qu'un stade de foot géant, un centre international de recherche et d'expérimentation pour la sauvegarde de la planète dans le prolongement de la COP21 et du programme 4 pour 1000.
Comme vous y allez-vous?
Le ministre n'a pas répondu, mais maintenant que Emmanuel Cos, est collègue de Stéphane Le Foll, peut-être qu'ils vont en parler, peut-être qu'on pourra compter sur son soutien.
Ça peut être une question bien qui
est posée.
On vous a encore fait le coup de dire, oui, mais vous savez, 18 terrains de football, c'est une façon de créer de la biodiversité, non?
On y répondra.
C'est pas mal. Bon, en tout cas, Blatter et Platini sont pas dans ce coup-là. On vous remercie beaucoup, et puis à très bientôt. Merci à vous.
Merci.
Inter, CO2 Mon Amour avec Denis Chessou.
Rester la nuit pour observer les étoiles, coucher sur le dos dans le frais du gazon, ça suffirait parfois pour qu'au-delà des illusions, on puisse se dire y'a de bons moments quand même. Se lever quand la brume étendra ses voiles, au jardin bleu dont on ne voit même plus le fond. Faire quelques pas et regarder jusqu'à l'horizon, où l'on sait qu'au-delà quelqu'un vous aime. Je sens bien déjà, c'est une belle journée pour moi et toi. ça va, ça ne dure pas. C'est pas fait pour ça, c'est une belle journée pour moi. Ça n'est pas bon, c'est vrai, mais ça fait du bien. Ne pas avoir à être dispo pour trois fois rien. Laisser couler les heures à la pendule. Au dernier feu, tout au loin d'un ciel immense. Guetter le tout dernier rayon vert du soir. Et tout là-haut, voir passer ton avion rouge et noir. Tu me reviens, je me dis que j'ai de la chance. Finira une bien belle journée pour toi et moi. Ça va, on aura, qui vivra verra, bien d'autres journées comme ça.
Belle journée pour vous, je l'espère, en tout cas, sur France Inter, CO2 Mon Amour avec William Scheller, choisi par Thierry Dupin, notre programmateur. Je prends ma sarbacane, floc, et hop, ça arrive, où ça? À 10 000 km, un joli petit mot doux, où ça? Eh bien, dans l'ancienne île Bourbon, celle de la tolérance, à savoir la Réunion à 10 000 km d'ici. Alors, nous allons grimper hein, tout à l'heure dans le cirque de Sillaos, mais auparavant, on rencontre avec Vanessa Miranville, parce que vous êtes maire de la Possession. La Possession se trouve au nord-ouest de cette île, qui fait 2500 km². C'est quand même une belle collectivité locale, parce qu'il y a quand même plus de 30 000 habitants. Personne nous intéresse, parce que vous êtes vraiment toute jeune. Et puis, de voir avec vous, quand même, comment ça se passe, comment on évolue, et surtout, quel regard vous avez. Et alors, je vois que là, vous avez une jolie photo qui vous quitte jamais, c'est celle du latanier rouge. Qu'est-ce que c'est de la tanière rouge, Vanessa Miranville?
Alors, c'est une espèce endémique de la Réunion et même de la Possession. Il n'en reste plus que quelques espèces qu'on a découvert par hasard dans une ravine de la Possession. Et on a préservé ces plants qui commençaient à être disparaître parce que les graines étaient mangées par les rats. Et on a pris des enfants, des écoles pour les aider, leur montrer ce qu'est une espèce endémique et faire replanter et faire bouturer ces plants.
Alors, cette île, à la fois, elle est superbe, on le sait. Donc, les marcheurs la connaissent par cœur, le piton de la Fournaise, 2500 km². Seulement, il y a un léger petit problème de déchets. Bon, il n'y a pas que chez vous, mais quand même, chez vous, ça prend quand même une certaine proportion. Donc, parlez-nous d'abord du constat que vous faites à La Réunion avec les déchets.
Ça fait depuis plus de quasiment 15 ans que les décideurs politiques se succèdent et ne prennent aucune décision. Donc, on fait des plans par-dessus des plans.
Des commissions, des plans.
Des rapports. Il y a des centaines et des centaines et des centaines de pages écrites. Sauf que, concrètement, aucune installation de traitement des déchets n'est sortie pendant ces 15 dernières années. Or, la population réunionnaise ne cesse d'augmenter. On sera bientôt 1 million d'habitants et on a une île qui ne peut pas. On est seul représentant de la France au niveau de l'océan Indien avec Mayotte et on ne peut pas, comme ici en métropole, dire la décharge est saturée. C'est pas grave, on envoie dans le département d'à côté. Il n'y a pas de département d'à côté à part Mayotte.
Oui.
Donc forcément.
Spécificité des DOM donc.
Exactement. Et d'être un territoire insulaire à 10 000 km de la métropole. métropole. Donc forcément, il faut des solutions qui soient adaptées à ces caractéristiques-là.
Alors qu'est-ce que l'on peut faire? Parce que donc je vois qu'il y a 660 kilos par an et par habitant. La moyenne aujourd'hui en France, on est autour de 580-590. Malgré tout, qu'est-ce que l'on fait? Parce que soit vous avez l'enfouissement, soit vous avez l'incinération, ou bien les foutent n'importe où. Donc,
On a, la spécificité, à nouveau, c'est premièrement, on a beaucoup de déchets verts parce qu'on est une île tropicale, ça pousse. Mais en même temps, ça peut être une grande force parce que bien utilisé, on peut produire de l'énergie à partir de ces déchets verts, par exemple. La deuxième, c'est que la société de consommation, elle est arrivée très récemment à La Réunion. Moi, j'ai 30 ans, je me souviens encore petite, ça n'existait pas, les supermarchés. On allait au marché, on allait dans la petite boutique chinoise du coin et on faisait des courses sans emballage. On prenait son régime de banane dans la cour et on jetait la peau de banane sur le bord de la route. Sauf que maintenant, les gens continuent à jeter sur le bord de la route, mais c'est des emballages en polystyrène, c'est du McDo. Forcément, ça donne pas la même chose.
Que fait-on? Alors, on a quoi? On a des ressourceries, on a quand même du tri qui existe, sélectif. Est-ce que l'éducation suit? Donc, que fait-on aujourd'hui?
Oui, on a mis en place le tri sélectif. Donc, on a deux poubelles, on a des déchetteries, on a inventé un petit concept que je trouve très intéressant qui s'appelle le trocali. C'est-à-dire que dans la déchetterie, il y a un espace où les gens viennent et ils déposent un livre, un bibelot dont ils ne veulent plus et ils récupèrent autre chose. Voilà, cette société du partage, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a encore beaucoup à La Réunion. On a vraiment un contexte très familial, on s'entraide, on se connaît. Cette proximité-là, ça peut aussi servir dans le cadre des déchets.
Donc vous n'avez pas quoi? Vous avez des centres d'enfouissement? Vous avez des incinérateurs ou pas chez vous?
Non, on a deux centres d'enfouissement qui arrivent tous les deux à saturation d'ici 3 ans. Aucun incinérateur, j'allais dire heureusement, malgré effectivement des plans qui depuis 15 ans préconisent d'en construire. Malheureusement, il faudra y arriver. Je pense que dans les prochaines années, un voire deux incinérateurs seront construits sur l'île, mais il va falloir être extrêmement vigilant sur les emplacements de façon à limiter la pollution, notamment, moi je pense à la santé des gens et surtout à la santé des enfants.
Alors pour passer à la vitesse supérieure, donc qu'est-ce qu'il faudrait? Parce que à force de fermer les yeux, tout ceci s'entasse. Et puis aussi, il y a quand même beaucoup de pollution, on va dire, organique. Et tout ceci va vers un seul endroit qui est la mer.
Voilà, donc on a des ravines dans lesquelles les gens, parce qu'il manque encore d'éducation, jettent des déchets. Tout ça est ramené lors des pluies cycloniques à la mer et notre corail meurt et on a des tortues qui meurent, etc. Enfin, la crise requin qui ne peut pas être étrangère aux activités humaines agricoles, etc.
Parce que s'ils ont aussi un garde-manger sympathique, les requins bulldog et les requins tigres vont aussi peut-être davantage rester sur place.
Exactement, donc on se pose des questions, etc. Moi, je pense qu'il faut déjà se dire toute action humaine sur Terre, forcément sur une île, a un impact sur la mer et il faut résoudre déjà ce problème-là en amont.
Qu'est-ce qui vous rend quand même optimiste aujourd'hui? Il faut passer par quoi alors?
Alors, ce qui me rend optimiste, c'est que la population est jeune. On a beaucoup de façons d'éduquer et moi, ce que je prône, c'est le pragmatisme. On arrête les grands discours. Enfin, j'ai une expression, c'est assez de blabla. On veut du résultat. Et donc je prends deux exemples d'actions qu'on a mises en place. Les dépôts sauvages, qui sont malheureusement très nombreux. Moi, sur ma commune, j'en ai plus d'une centaine. On a constaté que les nettoyer, ça ne faisait rien. Le lendemain, à nouveau, frigo, usagé, etc., revenaient sur place. Donc on les nettoie, mais surtout on les plante. On les plante avec des espèces endémiques. Et on associe les enfants du centre aéré du coin, les habitants du conseil de quartier du coin, pour que vraiment le message passe que l'environnement, c'est l'affaire de tous. Une deuxième action qu'on a mise en place, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines. On a constaté 50% de gaspillage. On a éduqué à la fois les dames de la cantine ou les messieurs, les enfants, en donnant des cuillères doseurs, en faisant voir aux enfants qu'on pouvait réduire la quantité de ce qui est mis dans l'assiette la première fois et on revient se servir une deuxième fois si on a encore faim, et le dessert on ne le prend que si on a encore faim, et donc on a réduit de plus de 30% la quantité gaspillée dans les assiettes.
Alors ça, ce sont deux actions en fait véritablement volontaristes, donc de la part de la maire que vous êtes, mais est-ce que vous êtes, je veux dire, contagieuse au niveau de toutes les communes de La Réunion, ou bien vous êtes un peu une exception?
Bon, Je pense que je suis un pionnier.
Ouais,
c'est ça. parce que bah, ça ne fait que qu'un an et demi, bientôt deux, que mon équipe et moi sommes élus sur la commune de La Possession. On a vocation à devenir un modèle. Et un modèle même dans la façon de faire. On est un mouvement citoyen. Nous ne sommes affiliés à aucune étiquette politique. Je considère, moi, que les partis dits de droite s'occupent d'économie, de gauche du social, les écolos s'occupent d'environnement. Sauf que tout est important, tout est indissociable et on doit travailler sur les trois volets qui constituent le développement durable de façon cohérente et logique. Donc j'espère faire un modèle sur ma ville, puis sur mon île et pourquoi pas l'étendre au-delà, à l'océan Indien ou ailleurs.
Bon alors Vanessa Miranville, on va vous retrouver d'ici quelques minutes. C'est pas mal, assez de blabla, on veut du résultat, ça peut s'appliquer à beaucoup de choses, me semble-t-il. Puis ça c'est compréhensible par tout le monde. Allez, je vais vous emmener maintenant donc à Cilaos, on grimpe vers ce cirque, toujours à La Réunion. Alors Yannick, là ce qui domine, avant cette entrée dans ce parc national, c'est évidemment la canne à sucre. C'est la monoculture locale.
Effectivement, là en partant de la rivière Saint-Louis, et pour arriver jusqu'ici, là au tapage, on est une zone de ce qu'on appelle les pentes agricoles. Hein, donc beaucoup de canne à sucre, beaucoup de champs de canne, quelques petites maisons, des petits villages comme ça un peu isolés. Et puis plus on remonte, on se rapproche de la forêt naturelle. Hein.
Ouais.
Et là, on est dans une petite parcelle. Là, c'est un autre type de canne, c'est la canne fourragère. Donc ça, c'est pas pour faire du sucre, mais ça sert d'aliment pour le bétail.
Et en fait, c'est toujours sur les meilleures terres que ça se passe, avec évidemment cette terre volcanique qui est une des, voire la plus riche du monde.
Les terres volcaniques, elles s'appellent les endosols. Là, c'est vraiment une très bonne terre. Elles se situent plutôt à l'ouest de l'île. Et là, par contre, on arrive sur la zone forestière.
Ouais.
Ça veut dire que les anciens, déjà, ils se sont dit, là, le sol, le relief, permet pas trop de...
On va pas faire les malins, quoi.
Voilà, donc c'est resté en l'état. Quelque part, si la Réunion avait été plate, je pense qu'elle aurait été entièrement mise en culture. C'est son relief qui a fait qu'il reste des beaux morceaux de forêt.
Que vous alliez ou reveniez de la neige, de la montagne, moi je vous emmène donc dans une autre montagne. Nous sommes, vous l'avez bien compris, à La Réunion, sur France Inter, dans CO2 Mon Amour, et dans cet archipel des Mascareignes toujours. Eh ben, on va grimper vers le cirque de Cilaos avec Yannick Zitt, qui est garde du parc national de La Réunion. Alors on est quand même dans un des 34 hotspots mondiaux de la biodiversité. Ça nous donne quand même quelques gentilles responsabilités. Vous imaginez un as de trèfle. Vous voyez ce que c'est, hein? Bon, très bien, quand vous jouez aux cartes, bon, l'as de trèfle. Chaque pétale, c'est un des trois cirques. Donc vous avez Salazi, vous avez Mafate et vous avez Cilaos. Alors bon, géologiquement, quand on parle de cirque, ça désigne en général une construction glaciaire. Là, c'est pas le cas, simplement c'est adapté, enfin la métaphore est adaptée à ce que voyaient donc les hommes, donc ce cirque qui est né donc de différents effondrements. Nous allons vers Cilaos avec Yannick Zitt, donc garde de ce parc à La Réunion de ce parc national. Alors là, en l'espace de 20 mètres, 30 mètres, c'est une césure. On a quitté donc les champs de canne.
Voilà.
On rentre dans la forêt, royaume des mousses aussi.
C'est boisé, mais on voit qu'il y a beaucoup de ça. Une espèce qui domine, là, c'est notre fameux goyavier.
Très bonne confiture.
Ouais, très bonne gelée.
Ah
ben voilà, les premiers goyaviers.
Ça y est.
Les premiers goyaviers de l'année. Donc là, ils sont verts, puis il y en a un qui...
Ouais.
Qui a pris déjà une petite couleur intéressante.
Bien.
Donc là, moi je le goûte. Hein.
Ouais, alors. Dommage, il n'y en a pas deux. Il doit être un peu.
Acide.
Un peu ferme. Oui, peut-être ça.
Acide, ferme, mais bon. Plein de vitamine C.
Ah, qu'est-ce que vous avez ramassé là?
Là, c'est une fleur. Une fleur de kiwi. C'est un arbre aux propriétés médicinales reconnues.
Oui, parce que là, on va rentrer quand même dans une très grande pharmacie.
La forêt de La Réunion, les premiers habitants, les malgaches, la métropole est loin, il faut se soigner avec ce qu'il y a autour d'eux. Donc comme c'était des malgaches, la forêt réunionnaise ressemble un peu à la forêt malgache, et on retrouve à peu près les mêmes essences, ou alors des espèces pas très éloignées. Donc ils ont su tirer profit un maximum de toutes les espèces indigènes, et on peut pratiquement soigner beaucoup, beaucoup vraiment de maladies.
Waouh, notre premier point de vue là.
Voilà, premier point de vue. Donc là, on est sur la crête.
Ouais.
À un bord de la crête, et là, bah, il y a le bras de Sillaos. Donc c'est le couloir d'entrée du cirque de Sillaos. En face, on voit bien toute une succession de crêtes qu'on voit bien depuis le littoral. Hein. C'est des ravines parallèles, vraiment parfaitement parallèles. C'est l'entre-deux. Et les hauts de l'entre-deux, le Dimitil.
Et puis la mer à perte de vue.
Voilà. Et là-bas, après toutes les pentes du sud, les pentes urbaines avec Plaine des Cafres, Le Tampon, Saint-Pierre, et jusqu'au récif corallien, la mer qu'on voit. Ouais.
Qui est la première protection, hein. C'est comme la mangrove, c'est extrêmement important. Ça.
Exactement, ouais. Sans récif corallien, on n'a pas de plage. Déjà, il fournit le sable. Et en plus, la baie corallienne casse les vagues, qui fait que derrière, c'est plus calme et le sable n'est pas emporté à chaque coulée. Là, on arrive vraiment sur la crête. Là, la crête, elle fait un mètre de large. Hein. Donc, d'un côté, toujours le bras de Sillaos, à peu près à 800 mètres, un peu plus bas. Et puis là, une des ravines de la chaîne de Bois de Neuf. Donc, il doit avoir 400, 500 mètres.
Oh, la chute.
Et là, tout en bas, tu vois, on voit la plaine du Gol et son usine. Là où on
sucrière, donc. Qu'est-ce qu'on utilise? Parce que là, on voit effectivement des cheminées. Donc ça, c'est une centrale thermique.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on utilise?
Alors, la centrale thermique, elle est située juste à côté de l'usine du Gol, l'usine sucrière. Et il y a même un énorme tapis roulant qui emmène directement la bagasse de l'usine vers la centrale thermique. En fait, la bagasse, c'est une fois que tu as écrasé la canne, que tu as extrait tout le jus qui est à l'intérieur, il te reste les fibres.
Hein. Ouais.
Une espèce de paille, et cette paille qui est ensuite mélangée à du charbon qui va être brûlé et qui sert de combustible pour la création de l'électricité.
Ah, attendez-moi Yannick, j'arrive, que fait-il? C'est quoi?
C'était pour te montrer là, une inflorescence, une grappe de fleurs de bois maigre. Alors le bois maigre, pourquoi? Parce que le tronc, il est plein de crevasses. Sur les gros individus, t'as l'impression qu'il n'a pas mangé depuis 2-3 ans. Il est tout maigre, en fait.
Ah, là, on va tirer la goutte du sac. Ouais, hop.
À votre montre, il est 1300 mètres d'altitude.
Ouais.
Voilà. Et alors, Yannick, là, ça y est. On a sous les yeux ce cirque extraordinaire, qui est celui de Sillaos. Avec le Piton des Neiges qui est à plus de 3000 mètres d'altitude, qui est le sommet et je dirais le papa de cette réunion.
C'est ça, c'est le vieux volcan. Hein.
Ouais.
Donc c'est lui qui a émergé en premier. Hein. Alors là, il est un petit peu, en guillemets, un peu délabré parce qu'il a subi l'usure du temps avec de nombreux glissements de flancs. Et ce sont ces glissements de flancs vraiment cataclysmiques qui ont créé ces cirques.
Ouais.
C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut s'imaginer que l'île de la Réunion, c'était un volcan de type vraiment type chapeau chinois, quoi, vraiment très régulier. Et puis par moments, il y a plusieurs kilomètres cubes qui s'arrachent de manière brutale. Et toute cette matière, elle dévale jusqu'à l'océan, laissant ensuite une cicatrice sur le flanc. Et ensuite, cette cicatrice, elle est reprise par les pluies, les cyclones. Et ça creuse comme ça, ça va dessiner les cirques.
Et alors dans ce cirque, il y a des acrobates, et les acrobates, ce sont les habitants qui vivent là. Alors, on voit des petits villages comme ça parsemés, là. Des petits villages, même des petites unités, enfin des petites habitations.
Voilà. L'homme, il n'a pas eu trop le choix pour s'installer dans ce relief très accidenté. Il a choisi les seules zones de replat, ce qu'on appelle les îlettes. Donc tu as le plus grand, là, le plat, c'est la ville de Sillaos, et puis tu vas voir l'îlette à cordes, là sur le côté gauche, l'îlette à cordes, l'îlette à Calbas, l'îlette à Père. Et donc ce sont comme des petites îles en fait, qui sont pas séparées par l'océan, mais séparées par le vide. Quand on est là-bas, on a vraiment une sensation de bout du monde.
Ah, c'est le tac-tac ça.
Voilà, donc j'essaie d'imiter...
C'est un oiseau, pour préciser, parce qu'on ne sait pas ce que...
Son gris, la femelle.
Ça y est.
Voilà, donc en bas là, plus coloré avec la tête bien noire, un petit peu de roux sur le flanc, c'est le mâle, et au-dessus la femelle. Donc ça c'est un oiseau endémique de La Réunion, donc il existe qu'ici. Est vraiment très très peu farouche et attiré par des visiteurs. En fait, comme lui, il se nourrit de petits insectes, de petites chenilles, nous, quand on marche dans la forêt, on dérange toute cette petite faune.
Ouais.
Et donc, du coup, elle devient visible et lui, il en profite. Donc, on le verra souvent sur nos pas très loin.
Bonjour, tac-tac. Vous connaissez tic et tac, maintenant c'est tac-tac. D'accord. Alors, de quoi on vit ici?
Ici, à La Réunion, c'est le site touristique le plus fréquenté. Ouais. Donc, Sillaos, c'est la ressource numéro un.
On attend le touriste.
C'est le touriste. Puis après, bon, il y a l'agriculture. Bon, là, un sol un peu ingrat, assez pauvre, parce que soumis à l'érosion permanente, bon, on a quelque chose de typique à Sillaos, ce sont les lentilles. Ouais. Les lentilles de Sillaos, notamment les lentilles dilatacorve, hein, qui sont très, très réputées. Donc ça, c'est...
Même le puits-en-velay peut s'accrocher. Hein. Non, ils sont bons. Hein.
Ils sont partis se former.
Ah, au puits.
Oui, ils sont partis se former là-bas, notamment pour le tri. Comment trier, enlever les petits galets, les petits cailloux dans les lentilles. Et là, si on reste 5-10 minutes, tout de suite, on va voir le papang. Donc le seul rapace de l'île, le papang. C'est un busard, en fait.
D'accord.
Le busard de Maillard.
Ah, ben voilà notre busard, ça y est. Ah, ben,
ouf. Et là, ça, c'est un mâle.
Quel rapport on a avec la nature, avec l'écologie? Parce qu'en même temps, ces gens-là, je pense, sont pétris quand même de cette nature.
Oui, ben, quand tu vis à Sillaos, tu es entouré de nature, donc il faut faire avec, tu peux pas faire contre elle. Hein. Il faut que tes pratiques, elles respectent cette nature, ne serait-ce que par exemple l'érosion. La première chose, là, le souci numéro un dans le cirque de Sillaos, et dans d'autres cirques aussi, c'est l'érosion. On a des mètres cubes, des millions de mètres cubes de terre qui partent à chaque cyclone, et la terre, c'est le support numéro un, c'est la ressource de l'agriculteur, donc il faut qu'il vraiment... il adapte ses pratiques et ça n'a pas tout le temps été le cas. Et c'est ce qu'on essaye, nous, de...
Avec le parc.
Voilà,
aussi,
avec le parc, avec d'autres acteurs, de faire évoluer les mentalités tout en...
En comprenant les coutumes locales.
Voilà, ouais. En intégrant les pratiques. Originelles.
Waouh, un crapaud, belle taille.
Oui.
Hein.
Un crapaud. Alors,
50 cm de nous, tranquille.
Voilà, un buffo gutturalis, hein, parce qu'il est très
guttural.
Il a un cri. Quand on a une centaine dans le fond d'une ravine, ça résonne.
Ah, c'est ça, on a envie de couper le poste.
Hein. Voilà. Ouais. Alors ça, c'est une espèce exotique, hein, qui a été introduite à La Réunion. Il n'y avait pas de batracien à l'origine à La Réunion. Donc il y a une grenouille qu'on trouve dans les étangs, un peu plus bas, et puis un crapaud. Donc ce sont les deux seules espèces.
Bon alors exprime-toi là, tu es guttural, on t'a dit que tu étais buffo, tu es guttural, hein? On a envie de t'entendre. Quels étaient les habitants qui sont venus ici? Qui est venu se habiter, se réfugier là? Donc,
Historiquement, les premiers à avoir parcouru ces crêtes, ces cimes à l'intérieur, sont les marrons.
D'accord.
Les noirs marrons, ben, en fait, ce sont les premières... années d'occupation de l'île, il y a les esclaves qui ont fui leur maître, donc ils sont partis tout de suite se réfugier dans les hauts. Donc ils sont partis sur la planète de l'ouest, ils sont montés, ils sont tombés sur cet énorme cassé, ils ont trouvé un accès. Alors, ils sont passés soit par les gorges là qu'on voit sur la droite, ou soit carrément en descendant les crêtes. Et ce sont les premiers à avoir occupé cet espace. Et d'ailleurs, beaucoup de noms de pitons, de rivières, garde encore le nom de cette époque-là. Donc la toponymie rappelle le marronnage avec beaucoup de noms malgaches.
Yannick Zitt, vous êtes un enfant du pays. Alors, vous êtes parti faire vos études en métropole, vous êtes allé au parc du Mercantour, vous êtes revenu ici, vous aimez profondément cette île.
Alors moi, ce qui me touche, c'est vraiment la diversité des paysages rencontrés sur un tout petit territoire, c'est-à-dire... On fait quelques mètres à la faveur d'un changement de crête. Ça peut changer de tout au tout. C'est ça qui me touche. C'est La Réunion, c'est on dirait que c'est un petit monde, une petite planète.
Vous vous imaginez, vous écartez les bras, vous n'avez pas des bras, vous avez des rémiges, vous avez des plumes, vous êtes au-dessus de Sillaos tranquillement, ou bien du côté du parc des Écrins si vous êtes parti du côté de la neige, que je sais que ça bouge un petit peu. Donc avec Yannick Zitt, garde du parc national de la Réunion, et nous étions à cette occasion-là, en fait on faisait un cycle de conférences avec mon camarade Frédéric Danhé, que vous allez entendre dans quelques instants, où on essayait de causer énergie, climat, biodiversité. Bonjour cher Frédéric.
Bonjour Denis.
Voilà, donc vous étiez
avec nous. D'ailleurs, je tiens à signaler que vous avez vos très belles photos, hein, pendant que j'interviewais Yannick Zitt, qui sont sur le site de CO2 Mon Amour. Voilà.
Ah bah, c'est gentil. Oui, on vous voit beaucoup sur les photos.
Bah, c'est pour moi qui ai choisi de vraiment, mais enfin bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est le paysage surtout. Oui, et oui. Alors, ce qui est bien, voilà. Donc, parlons des bryophytes, qui, comme vous le savez évidemment, ce sont des mousses. Et pourquoi? Parce que ces mousses-là sont un formidable indicateur du climat et on les avait observées aussi en grimpant vers Cilaos.
Oui, bah les mousses, il y en a partout. Les mousses, c'est vraiment ce qui pousse. Ça rime d'ailleurs ce qui pousse dans les forêts d'altitude, les forêts des nuages. Hein, c'est les forêts qui poussent là où les nuages, poussés par les alizés, se fracassant sur les montagnes, déversent leur pluie, déversent leur eau à l'est de la Réunion. Alors les mousses, comme elles n'ont pas de racines, elles dépendent totalement de l'air, donc elles sont un excellent indicateur, à la Réunion comme en métropole, un excellent indicateur de la qualité de l'air et des paramètres de l'air, notamment du taux d'humidité. Et puis ces mousses réagissent extrêmement vite au moindre stress, c'est-à-dire à la moindre transformation, la moindre modification de l'air qui les fait vivre. Et puis ces mousses, faut pas oublier que, mon cher Denis, qu'on compte jusqu'à 6 tonnes à l'hectare hein, dans ces forêts à la Réunion, oui, et que ces mousses, juste pour les deux espèces principales, sont gorgées de 35 mètres cubes d'eau à l'hectare. Donc ces mousses, dans ce château d'eau que sont les hauts, les montagnes de la Réunion, ben, ces mousses sont le réservoir principal. Donc les observer, ça donne une bonne idée à la fois de ce qui est en train de se passer dans l'air, donc avec le réchauffement climatique, et de ce qui pourrait advenir pour la quantité d'eau disponible pour les Réunionnais.
Donc ça veut dire qu'il y a un mouvement qui s'appelle MoufClim, hein, qui voilà. A été donc initié par l'Université de la Réunion. Vous avez l'Université des Açores, vous avez le Parc National aussi de la Guadeloupe, celui de la Réunion, et puis le Muséum National d'Histoire Naturelle qui sont donc dans cette affaire. Donc on s'intéresse bien sûr à ce milieu tropical. D'une manière, on va dire, plus générale maintenant, réchauffement climatique et pays donc qui se trouvent sous ces différentes latitudes.
Eh bien, ce qu'on voit dans toutes les îles, et ça les mousses et les fougères le montrent bien, c'est que l'altitude à laquelle les nuages se résolvent en plus, les altitudes augmentent, ce qui veut dire qu'il y a moins d'eau en bas, qu'il y a plus d'eau en haut, mais seulement du côté est, du côté où les alizés poussent les nuages. Alors que du côté ouest, c'est-à-dire du côté sec, bah, il pleut de moins en moins. Donc il pleut moins du côté ouest, qui est le côté sec, hein, sur toutes les îles tropicales, et en plus il pleut moins pendant la saison sèche. Par contre, il pleut un peu plus pendant la saison humide, mais du côté où les alizés poussent les vents. Donc tout ça, c'est les alizés poussent les nuages. Donc tout ça remet en cause, enfin amplifie encore un peu plus les inégalités de disponibilité de l'eau entre les saisons, hein, et entre les régions d'une même île, ce qui pourrait causer des problèmes dans l'avenir. Et derrière tout ça, ce que nous disent ces mousses, entre autres, c'est qu'il semble y avoir une modification de la circulation générale sur les tropiques. On le voit bien avec ces alizés. On le voit aussi avec ce qui est couplé à ces alizés, vous savez, ces grands courants marins, aussi bien en Atlantique que dans l'océan Indien, qui eux-mêmes sont couplés aux courants marins du Pacifique, et on voit qu'il y aurait un couplage de tout cela avec El Niño. Voilà, tout ça est extrêmement complexe. En tout cas, ce qu'on voit à La Réunion, juste en regardant les mousses, c'est que ce qui advient à La Réunion donne une idée de ce que un an et demi plus tard va devenir dans le Pacifique et inversement. Vous voyez ce que je veux dire? Rien qu'en observant les mousses, on voit une évolution du climat, on voit une évolution de la quantité d'eau disponible à la Réunion, donc on peut imaginer l'avenir, et on voit que tout est lié avec El Niño, et que la machine climatique s'est quand même considérablement emballée.
Lorsque l'on est donc à la Réunion, que l'on est quand on est aussi donc à la Martinique et à la Guadeloupe, on a évidemment une culture du cyclone. C'est pas exactement notre cas, nous en métropole. Bien, on n'a pas exactement évidemment les mêmes risques. Qu'est-ce que l'on peut dire sur ces cyclones aujourd'hui? A priori, il n'y en a pas davantage, mais est-ce qu'ils seront plus puissants?
Bah, a priori, ce qu'on voit, c'est une augmentation de l'intensité des cyclones qui étaient déjà les plus durs. Donc il n'y a pas une augmentation de la fréquence, mais on voit de plus en plus de cyclones qui sont au sommet de l'échelle qui mesure l'intensité des cyclones, hein, l'échelle Saffir-Simpson. Donc il y a de plus en plus de cyclones numéro 5. Hein, c'est pas du parfum, c'est du cyclone. Et c'est assez cohérent avec ce que l'on observe. On a une eau qui est plus chaude, donc une eau qui, à un moment ou un autre, doit soulever la soupape de la cocotte minute, qu'est le cyclone. Donc on pourrait avoir dans l'avenir, comme l'eau est plus chaude, comme en plus les alizés semblent un peu plus perturbés, on pourra avoir dans l'avenir plus de cyclones et plus de cyclones de très forte intensité. À La Réunion, c'est ce qu'on observe. Il y a des coups de vent qui sont pas plus fréquents, mais qui sont plus durs. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus d'énergie à évacuer un ouragan. C'est une gigantesque façon pour l'océan, pour la machine climatique, de virer le plus vite possible un surplus d'énergie.
Merci beaucoup, cher Frédéric
Mais
je vous en prie, pour cette explication toujours extrêmement claire. Vous serez avec nous d'ailleurs la semaine prochaine, on parlera d'agriculture, il y aura Isabelle Saporta qui viendra donc nous en parler, hein, parce que ça va être le salon. Et puis, dans quelques instants, on va retrouver, donc deuxième partie donc à la possession, cette mairesse de 30 ans, Vanessa Miranville. Son prénom c'est Stevie. Oui, c'est Stevie. Le vrai, celui qui a du talent, le chanteur. Men spending most of their lives living in a pastime paradise. Men spending most of their lives living in a pastime paradise. Men wasting most of their time glorifying. Days long gone behind, and wasting most of their days in remembrance of ignorance so disgraced. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Dissipation, gracefulation, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. They've been spending most of their lives living in a future paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the Savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Proclamation, a gracefulation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation for salvation, vibration, stimulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in the pastime paradise. They've been spending most of their lives living in the pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. We've been spending too much of our lives living in a past paradise. Let's start living on life, living for the future paradise.
Bonheur, ce soleil, cet air, ce parfum, ces collines, ces arbres, ces oiseaux, ces œufs à la coque.
France Inter, CO2 mon amour. Avec Denis Chessou.
Bah oui, c'est beau la nature. Et puis on a vu ce Stevie Wonder quand même, Pastime Paradise que vous connaissez. Bah ça, pas loin de 40 ans hein, quand même cette affaire-là. On nous embête pas avec les économies d'énergie, avec le réchauffement climatique, la biodiversité. On faisait n'importe quoi. C'était absolument formidable. Et bon, on en est maintenant aujourd'hui. Alors, Vanessa Miranville, deuxième partie. Avec vous, donc maire de la possession. Hein, donc nous sommes toujours à La Réunion. Vous avez 30 ans, ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Et puis, donc toujours plus de un peu plus de 30 000 habitants. C'est une commune, ça part de 0 mètre, niveau de la mer, ça monte jusqu'à 2900 mètres. Et justement, bah parlons justement des énergies. Où en est-on énergie renouvelable et La Réunion?
On a un net recul. C'est vrai qu'on a, on reste pionnier en matière de, d'environnement, enfin de, d'énergie renouvelable. On a 35% de, d'énergie renouvelable, sauf qu'on en avait 100% c'est dans ça. Les années 80. Donc forcément, il faut, faut regarder ça quand même. La, la population augmentant, on a des besoins énergétiques qui augmentent mécaniquement, même si chacun fait quand même des efforts. Ce qu'il y a, c'est qu'on a effectivement c'est la, la source solaire, on a l'énergie thermique des mers, on va chercher de l'eau froide en profondeur, on la remonte pour la climatisation, par exemple. On a un potentiel de géothermie, on a l'énergie de la houle, enfin voilà, on a énormément de potentialités. La problématique, c'est l'intermittence des énergies renouvelables. Le pic de consommation, on appelle ça, nous, le pic de la marmite à riz, parce qu'on mange beaucoup de riz, il est à 19h, sauf qu'à 19h, il n'y a plus de soleil, donc l'énergie solaire ne peut pas servir là. Donc la solution, elle est dans le stockage de l'énergie pour pouvoir l'utiliser au moment où le besoin se fait ressentir, et aussi la gestion intelligente de l'énergie. Sur la commune, on a une ZAC qui va être un écoquartier sur lequel on développe un smart grid qui va être vraiment spécifique à notre climat, à nos modes de consommation, et on espère en faire à nouveau un modèle.
Bon, alors ce qui est pas mal, c'est que vous essayez de mettre évidemment la population dans le coup, et lorsqu'on responsabilise les gens sans leur faire de la morale, quand même des belles réussites, quoi.
Oui, moi je suis vraiment partisane de la participation des citoyens. J'adore la situation de Mandela. Ce qui se fait pour nous, sans nous, se fait contre nous. Donc il faut que les citoyens comprennent pourquoi il est important d'eux. Il ne s'agit pas juste de dire ferme l'eau quand tu te brosses les dents, éteins la lumière. Non, pourquoi c'est important de le faire? Qu'est-ce que ça impacte de ne pas faire ces gestes-là? Quel avantage on a à le faire? Et surtout leur faire comprendre que tout ce qu'on fait, c'est pour nos enfants.
Oui. Et Mandela avait aussi une autre jolie phrase, il disait « c'était impossible jusqu'au moment où nous y sommes arrivés ».
Exactement.
Voilà. Un très léger souci, comme dans les DOM et dans les TOM, c'est la bagnole. Alors ça, évidemment, 840 000 ou 50 000 habitants, et en gros, pas loin de 400 000, voire plus, de voitures. On a le culte de la voiture dans les îles, c'est pas nouveau. Mais ça devient quand même complètement dingue, parce qu'il y avait un projet de ce qu'on appelle de tram-train qui aurait justement pu irriguer, on va dire, les hauts, comme on dit chez vous, vers le bas. Et là, on est parti sur une fuite en avant, avec un programme complètement pharaonique, du côté de Saint-Denis, pour désengorger la côte.
Alors, le culte de la voiture, je pense que c'est aussi une image. Quand, moi, je ne l'ai pas, et pourtant... Je ne peux pas prendre les transports en commun dans ma vie de tous les jours,
voilà.
Parce que il me faudrait à peu près 3 à 4 fois plus de temps qu'en voiture pour aller d'un point A à un point B. La géographie de La Réunion, c'est une bande littorale, et au milieu, on a des montagnes. Donc quand on habite dans les hauts, qu'on doit descendre, faire un bout du bord littoral et remonter dans les hauts, il faut faire 3 changements, il faut attendre des connexions qui prennent plus de 30 minutes, ouais. Ça n'est pas possible. Donc là, il y a, à mon sens, vraiment une nécessité à créer un réseau de type ferré ou de type bus à haut niveau de service, en tout cas sur des voies dédiées pour que ce soit vraiment performant et rapide, efficace sur le pourtour du littoral de l'île, et ensuite des connexions efficaces vers les hauts. Et il faut être innovant. Notre commune, à nouveau, et mon adjointe à l'aménagement, a demandé à l'intercommunalité d'étudier le transport par câble. Donc on s'est dit, alors là, on nous dit, mais c'est pour les stations de ski, ça. Non. Il y a Medellin en Amérique du Sud, des villes qui innovent et qui mettent en place du transport par câble urbain pour franchir les routes nationales, pour franchir les obstacles qui font que sur un territoire aussi contraint, on n'a pas la possibilité d'élargir encore les voies ou de mettre de nouvelles voies dédiées aux bus. Prenons les airs.
Et puis alors vous êtes aussi la reine du covoiturage.
oui, c'est un mode de vie également. Hein, et on a une plateforme qui s'appelle Roule Ensemble, qui est la car locale.
Ouais. Alors Vanessa Miranville, vous êtes toute jeune et vous êtes une femme complètement engagée. C'est-à-dire qu'à un moment vous vous êtes dit, ok, je suis militante, j'ai une sensibilité à l'écologie, à l'environnement depuis toute petite, mais vous aviez envie d'aller plus loin, donc de vous confronter au réel, quoi.
Oui, parce que bon, les grands discours ne font pas changer la planète, ne font pas
de blabla des résultats.
Voilà, exactement. Ouais. Ma conviction profonde, c'est que pour réussir justement à changer les choses, parce que quand, je suis tous les jours dans les stands de la COP21, les solutions, on les connaît, qu'il faut plus de transports en commun, qu'il faut plus de voies pour les vélos, qu'il faut construire plus avec de l'énergie renouvelable, etc., etc. On le sait. Mais maintenant, la vraie question pour moi, ça n'est pas le quoi, c'est le comment. Oui. Pourquoi ça ne se passe pas, quels sont les freins, quels sont les blocages, quels sont les lobbies qui empêchent tout ça, et sur, à mon échelle...
Ils sont très identifiés, les lobbies, en fait.
Bien sûr, mais maintenant, c'est comment on y résiste. On y résiste en mettant au pouvoir des citoyens, comme je le suis, qui n'ont pas d'affiliation, qui n'ont pas d'intérêt ailleurs, et qui prennent le pouvoir en se disant que c'est pas forcément que des gens pourris qui font de la politique. On peut être quelqu'un avec des valeurs, avec une vision, et avoir envie de faire avancer sa ville, son département, son pays. Et pour être vraiment innovant également dans la méthode, on se lance sur une expérimentation à nouveau d'un nouveau mode de gouvernance qui s'appelle l'holacratie.
L'holacratie, H-O-L-A et cratie derrière. Donc les origines, c'est quoi ?
Alors ça vient du mot holarchie. Pour se représenter, c'est le corps humain. Il n'y a pas de décideur dans le corps humain. Le cerveau ne dit pas au cœur de battre, ne dit pas aux poumons de respirer. Chacun sait ce qu'il a à faire et fait ce qu'il a à faire pour servir une raison d'être qui est
la vie.
Voilà, qui est la vie et qui est la mission que l'être humain a à accomplir sur cette petite planète.
Voilà. Et donc l'infiniment petit, c'est-à-dire le délicieux petit microbe que nous avons et avec le cœur et tout ça, tout le monde a sa place et tout le monde fonctionne en coopération.
C'est collectivement, c'est tous ensemble que chacun doit prendre ses responsabilités, savoir quelle est sa place, qu'est-ce qu'il a de meilleur à donner. Et ce nouveau mode de gouvernance, l'holacratie, qu'on va tester dès le début de l'année 2016, va nous permettre justement d'enlever... En fait, il n'existe pas de manager, il n'existe pas de directeur dans ce mode de gouvernance. On est tous des managers, on a tous une autorité sur un domaine de compétences.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Vanessa ?
Que le modèle que je mette en place fonctionne. L'holacratie et puis le modèle général de ville durable, de ville qui prend soin de ses habitants et qui est vraiment collaborative et où il fait bon vivre. Déjà qu'il fait bon vivre à La Réunion, mais bon, il faut le préserver et l'améliorer. Et que ce modèle fonctionne à l'échelle d'une ville, puis à l'échelle d'une île et peut-être à une échelle plus grande, parce que on est nous... pour moi, un port une avancée de la France dans l'océan Indien. Et on a cette capacité également de transmettre aux pays du Sud qui nous sont à quelques centaines de kilomètres à peine de la Réunion, cette volonté aussi d'accompagner, d'aider, d'être dans un changement gagnant-gagnant, une coopération où on ne va pas en conquérant pour dire voilà, regardez ce qu'il faut faire, mais au contraire où on apprend de l'autre. Je donne un exemple très concret, la ville de la Possession est en coopération avec la capitale des Seychelles, Victoria. On envoie des jeunes bientôt de la Possession pour apprendre leur qualité d'accueil touristique qui n'a plus à être démontrée. On échange culturellement et en contrepartie, nous, on va mettre en place une mission de prospective pour voir comment mettre en place le tri des déchets qui n'existe pas et qui à terme va être une catastrophe écologique et économique, parce que le tourisme, bien sûr, s'il y a plein de déchets, ça marche beaucoup moins bien. Donc voilà, on va aller exporter, on va dire, le savoir-faire français réunionnais aux Seychelles. Donc tout le monde y est gagnant.
Votre petit coin secret, vous, de la Réunion, que vous aimez, ça peut être lequel ? Au-delà, évidemment, de votre commune de la Possession, mais voilà, on s'enfonce, on remonte dans les terres, on va vers les hauts.
La forêt de Bellouve, donc c'est une forêt vraiment typique de la Réunion.
Forêt primaire, hein ?
Oui, forêt primaire de la Réunion, et pour moi, c'est si le paradis doit ressembler à quelque chose, c'est sûrement à ça.
Ça, on vous l'offrira une autre fois, la forêt de Bellouve. Voilà, c'était un petit clin d'œil à nos compatriotes donc de la Réunion, une autre façon donc d'aller à la montagne aujourd'hui. Merci donc à vous, Vanessa Miranville, Juliette Delpero, Gilles Gaillard. Soyez remerciés également à la technique aujourd'hui, ainsi que Claire Destacan, Xavier Pestugia, qui a réalisé l'émission, qui a colorié ce reportage donc en direction de Cilaos. La semaine prochaine, on va être
plutôt autour de l'agriculture avec le salon en toile de fond. Curieux de nature, c'est demain chez Patricia Martin avec Alain Bougrain-Dubourg à 7h55. Il y aura vos messages, on va arriver à les passer un certain nombre quand même. 01 56 40 40 35, ne vous gênez pas. Le Twitter, c'est le tweet. Tweet, oui. Chez Sou, tout absolument, tout simplement. La Tulu, mon petit loup, ce sera 19h54 demain, après les petits bateaux. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et de bonnes vacances, si c'est le cas, tranquillement, dans votre voiture. N'allez pas vite, de toute façon, il y a du monde devant vous. J'y pense, c'est vrai que la semaine dernière, quand on était dans ce coin des Hautes-Alpes aussi avec Christian Couloumi, si vous réécoutez au podcast, c'est tout à fait possible, on avait parlé des animaux en hiver en montagne, donc vous les retrouverez aussi dans ce coin, et puis d'autres sujets qui se profilent à l'horizon, un petit peu partout en France, vous en avez l'habitude. Que vous ai-je dit, Emmanuel Carrad, oui, Emmanuel Carrad qui sera donc avec la librairie francophone à partir de 15h.